l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Nicolas Brousse.
Bienvenue à tous dans Appel sur l'actualité, votre émission plus que jamais le vendredi, puisque outre les réponses à vos questions dans les 20 prochaines minutes, vous êtes également les rédacteurs en chef de la seconde partie. C'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer au 33 9 693 693 70 ou sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'émission, sans oublier le bon vieux mail appel@actu.rfi.fr. On reviendra notamment sur la situation au Gabon, au Burundi ou encore en RDC dans une demi-heure. Mais c'est aussi l'occasion de venir nous parler de sujets que nous avons peu ou pas traités. N'hésitez pas, RFI à votre service et nous allons le prouver tout de suite en répondant à vos questions sur l'actualité. Nous sommes avec François-Xavier qui nous appelle de Dakar. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Nicolas.
Alors vous avez des questions sur les Jeux Olympiques et sur la situation politique toujours compliquée au Brésil.
Oui, tout à fait.
On vous écoute.
Dilma Rousseff et Lula, l'ancien président, n'assisteront pas à l'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce un choix politique ou la présidente est-elle soumise dans le Le déroulement des JO pourrait-il influencer la situation politique du Brésil?
Alors, pour les auditeurs qui ont peut-être moins suivi ce qui se passe au Brésil, Dilma Rousseff, qui a succédé à son mentor Lula da Silva, est suspendue de ses fonctions présidentielles depuis le 12 mai. Elle est, pour résumer, accusée d'avoir falsifié les comptes de la nation pour assurer sa réélection à la présidence. Un rapport d'enquête rendu public cette semaine la rend coupable. Et hier, une commission du Sénat s'est prononcée en faveur d'un procès. En attendant, c'est son rival, l'ancien vice-président Michel Temer, qui assure l'intérim. Nous sommes en ligne avec Alfredo Valadao. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris. Merci de nous consacrer quelques minutes pour nous éclairer sur cette situation brésilienne, je le disais, assez compliquée. Alors François-Xavier, notre auditeur, se demandait tout d'abord si Dilma Rousseff était en résidence surveillée.
Oh, pas du tout. Ou plutôt, c'est une drôle de résidence surveillée, c'est-à-dire qu'elle habite la résidence officielle des présidents de la République, donc le palais présidentiel officiel. C'est surveillé par la police, mais pas, c'est pas elle qui est surveillée, c'est le palais qui est surveillé.
Donc elle reste libre de ses mouvements, on est d'accord. Hein.
Absolument libre, elle peut aller partout, dans tout le pays, elle peut faire ce qu'elle veut.
Donc si elle ne vient pas, c'est parce qu'elle veut protester contre cette procédure de destitution contre elle, ou c'est pour embêter, si je puis dire, son rival Michel Temer?
Je pense que c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que d'abord elle ne veut pas venir parce qu'elle sait qu'elle va être huée par la foule, comme d'ailleurs Michel Temer lui-même va aussi être hué, donc elle n'a pas envie de passer par là. Deuxième élément, comme c'est le président en exercice qui doit ouvrir les Jeux Olympiques, et pas elle, elle se trouverait en une position d'infériorité par rapport à l'intérim, donc elle n'a pas envie d'avoir ce genre de problème. Donc c'est elle qui a décidé de ne pas assister pour ne pas montrer qu'elle est impopulaire et de ne pas avoir une position un peu moins importante que son vice-président au moment de l'ouverture des Jeux.
Elle l'avait d'ailleurs déclaré le 25 juillet sur l'antenne de RFI hein, qu'elle n'accepterait pas un second rôle. C'était un entretien que l'on peut évidemment réécouter quand on le veut sur notre site internet rfi.fr. Alors il y avait une deuxième question de François-Xavier. Est-ce que le déroulement des Jeux Olympiques peut influencer la situation politique au Brésil, redonner un peu de morale aux Brésiliens?
Oh, pas vraiment, parce que les Jeux Olympiques d'abord ne sont pas faits dans tout le Brésil, ils ne sont faits qu'à Rio de Janeiro. Le Brésil est un pays de 8,5 millions de kilomètres carrés avec 200 millions d'habitants, donc l'impact des Jeux c'est surtout sur la ville de Rio, sur la façon dont les cariocas vont vivre ça, sur les travaux d'intérêt public qui ont été faits, etc. Les Jeux eux-mêmes, je pense qu'ils vont très bien se passer. Mais l'influence politique des Jeux en eux-mêmes, elle est pratiquement nulle dans cette affaire.
Alfredo Valadao, vous n'attendez pas un effet euphorique comme il y a pu y avoir pour le Mondial, par exemple. Hein, le quotidien Le Monde, dans son édition d'aujourd'hui, écrit que le Mondial avait étourdi la population brésilienne, qui est, on le sait, très passionnée par le football. Mais les Jeux Olympiques n'ont pas le même impact.
Bon, pas le même impact. D'abord parce que le Brésil est, comme tout le monde sait, le pays du football. Tout le monde adore le football. Tout le monde est football. Donc, qu'une Coupe du monde de football au Brésil donne un impact euphorique. Et aussi, la Coupe se faisait dans l'ensemble du Brésil. Il y avait des stades du nord au sud du pays qui abritaient des matchs de la Coupe. Là, c'est de l'athlétisme, c'est à Rio même, etc. Donc, il n'y aura pas de grand effet euphorique sur la population.
Ce sont bien les Jeux Olympiques de Rio et non pas du Brésil. Merci beaucoup Alfredo Valadao, professeur à l'École des Affaires Internationales de Sciences Po Paris. Et merci à François-Xavier qui nous appelait de Dakar. C'était l'objet du débat d'appel sur l'actualité hier, ici même. Une résolution onusienne pour le déploiement de policiers internationaux au Burundi. Le Burundi où nous attend Eugène qui est à Bujumbura. Bonjour Eugène.
Bonjour. Nicolas, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Bienvenue sur l'antenne. Vous avez des questions sur ce dossier?
Oui, effectivement. Sur la proposition de la France, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution portant à l'envoi au Burundi de 228 policiers, ce que le gouvernement burundais a considéré comme une provocation. J'ai une question et la première, est-ce que les Nations Unies réussiront-elles à appliquer cette résolution qui ne bénéficie pas de l'aval du gouvernement burundais? Quant à la deuxième question...
Gardez-la pour tout à l'heure, Eugène. Gardez la deuxième question pour tout à l'heure. On va déjà accueillir Carole Vallat du service Afrique de RFI. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour Eugène.
Et vous suivez pour nous de très près ce dossier. Alors on va répondre tout de suite à la question d'Eugène. Est-ce que les Nations Unies peuvent passer outre le refus des autorités de Bujumbura?
A priori, non. Alors certes, il y a l'article 25 de la Charte des Nations Unies qui stipule clairement que les États doivent se conformer, en tout cas accepter les décisions du Conseil. Mais les opérations de l'ONU, elles, sont régies par trois principes fondamentaux. D'abord, il y a l'impartialité. Ensuite, le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre le mandat. Et surtout, le consentement des parties.
C'est donc impossible dans les textes, on vous entend, Carole, mais dans la pratique?
Dans la pratique non plus, hein, parce que si le pays n'accepte pas, dans les faits, les policiers se présentent et ils sont simplement refoulés à l'aéroport comme quelqu'un qui n'aurait pas de visa, par exemple.
Mais alors, ça n'est jamais arrivé déjà que l'ONU envoie des troupes sans l'accord du pays concerné?
J'ai posé la question à une spécialiste de l'ONU qui m'a répondu que c'était arrivé, selon elle, une fois, en 1978. C'était au Liban et ça s'est plutôt mal terminé puisque les agents de l'ONU, en fait, se sont fait tirer dessus et qu'ils ont dû répliquer. Et puis, il faut rappeler qu'en fait, il s'agit de policiers, hein, de personnes chargées d'observer et d'encadrer. Donc, ce ne sont pas des soldats. Hein, ce n'est pas une opération militaire sous chapitre 7. Et enfin, vu l'hostilité affichée par le parti au pouvoir, et vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, les menaces à peine voilées, contre ces agents, eh bien, certains craignent que ça ne fasse que attiser les tensions.
C'est ce que pensent certains de nos auditeurs. On en retrouvera certains d'entre eux dans la libre antenne. En attendant, cette résolution semble donc bel et bien inapplicable. Est-ce que du coup, elle va être abandonnée?
On pourrait craindre, oui, qu'elle subisse le même sort que la Maprobo. Vous vous rappelez la force de l'Union africaine, hein, qui finalement avait été totalement avortée à cause du refus du président burundais. Mais bon, le Conseil de sécurité a quand même une crédibilité à défendre. Et le plus probable, c'est que celui-ci lance de nouvelles discussions maintenant avec le Burundi pour trouver un moyen de faire appliquer cette résolution. Mais c'est pas totalement perdu. Rappelons qu'il y a moins d'un mois encore, Bujumbura a accepté encore 50 policiers.
Sauf que maintenant, ça n'est plus vraiment d'actualité. On va bien sûr suivre cette affaire. Eugène, vous aviez une autre question pour Carole Vallat.
Oui, j'ai une autre question. Pourquoi les autorités françaises, pourtant très réservées par rapport à la crise burundaise, en arrivent-elles à soumettre une résolution qui vexe les autorités du Burundi?
Alors, en effet, les autorités du Burundi, comme le dit Eugène, parlent d'une tentative de recolonisation, hein, ce sont les mots du CNDD-FDD. Et c'est aussi le discours qu'on a entendu au cours de la manifestation qui s'est déroulée samedi dernier à Bujumbura, organisée par les autorités. Après, dans cette manifestation, on a quand même vu l'ambassadeur de France se déplacer plutôt librement, il n'avait pas l'air trop inquiet. Donc on peut douter en fait qu'il y ait une réelle animosité populaire contre la France. Ça serait plutôt plutôt de circonstances, en fait.
On sent qu'il y a quand même une volonté de dialogue. Selon le gouvernement du Burundi, la France, en tout cas par cette résolution, a peut-être des visées géopolitiques, voudrait se réconcilier avec le Rwanda, car les relations entre Paris et Kigali sont toujours au plus mal.
Oui, alors à cela, la France répond en fait qu'elle est simplement le porte-plume de cette résolution, c'est-à-dire en quelque sorte le rapporteur, que pour chaque dossier, en fait, il y a un membre du Conseil qui est désigné pour ça. Et Paris dit donc agir au nom de la communauté internationale. Puis rappelons qu'à ce sujet aussi, que la position française, elle a longtemps été plus timide que celle des États-Unis, par exemple, et que cette résolution, c'est plutôt une forme de compromis. Hein, l'envoi de 228 policiers, c'était la solution intermédiaire dans ce qui était prévu. Mais c'est vrai que la France s'implique plus dans ce dossier. On l'a vu mardi dernier, puisque le ministre des Affaires étrangères a rencontré le facilitateur dans le dialogue inter-burundais pour l'assurer de son soutien et probablement aussi pour défendre cette résolution.
Carole Valade du service Afrique de RFI répondait à Eugène qui est à Bujumbura. Eugène, vous êtes satisfait ?
Oui, je suis satisfait, mais merci.
Merci à vous d'avoir appelé et encore une fois, si vous souhaitez réagir, vous qui nous écoutez, la Libre Antenne est là pour ça dans une vingtaine de minutes. Maintenant, vous pouvez nous appeler au 33 9 693 693 70. Réagissez également sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. En attendant, Amir est à Libreville, au Gabon. Bonjour Amir.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Bienvenue, c'est une information économique qui vous a interpellé.
Oui. Au cours de la semaine passée, l'Égypte a demandé un prêt auprès du FMI à cause notamment de la baisse de l'activité touristique. J'aimerais savoir, est-ce que ce prêt a-t-il des chances d'être accordé? Quelle contrepartie peut-il exiger, que le FMI peut exiger? Et enfin, comment l'Égypte compte-t-elle valoriser ce prêt en vue de dynamiser son économie?
Comment l'Égypte peut valoriser ce prêt? On va essayer de vous répondre avec Gaël Lalex du service économique qui nous a rejoint. Bonjour Gaël.
Bonjour.
On va pas essayer, on va carrément le faire. Alors donc, cette demande d'aide, est-ce que d'abord ce prêt a des chances d'être accordé?
Oui, alors la question de l'accord d'un prêt du FMI à l'Égypte, c'est un véritable serpent de mer, hein, un feuilleton aux nombreux rebondissements qui durent depuis 2012. Les négociations avec l'institution de Bretton Woods ont été initiées par le président de l'époque, Mohamed Morsi. Un pré-accord pour un prêt d'environ 5 milliards de dollars avait alors été signé, sous condition évidemment de réformes économiques. Puis, en juillet 2013, un coup d'état militaire installe au pouvoir le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, qui n'a pas vraiment envie d'engager des réformes structurelles de son économie. Le nouveau président se tourne donc vers les monarchies du Golfe pour obtenir des liquidités. L'Arabie Saoudite s'engage alors à apporter une aide de 5 milliards de dollars. Les Émirats Arabes Unis et le Koweït ensemble offrent quant à eux 7 milliards.
Donc de l'argent est promis, mais alors qu'est-ce qui a changé, Gaëlle ?
Eh bien, l'Égypte se trouve aujourd'hui vraiment dans une tourmente financière. Elle est notamment à court de devises étrangères, ce qui provoque une dangereuse augmentation des prix. L'Égypte ne dispose aujourd'hui plus que de 17 milliards de dollars dans ses caisses, contre 36 milliards en 2012. Pour stabiliser son économie, le pays a désespérément besoin d'entrées de cash et peut difficilement se passer du FMI. Le montant négocié est d'ailleurs colossal. On parle de 12 milliards de dollars sur 3 ans. Si le FMI retourne à la table des négociations, c'est aussi parce que le Caire a déjà montré patte blanche en engageant des réformes importantes.
Des réformes justement pour remplir les conditions fixées par le Fonds monétaire international.
Oui, entre autres, il y a plusieurs conditions fondamentales pour le FMI. D'abord, réduire les dépenses en réformant notamment les subventions à l'énergie. Mal ajustées, ces aides profitent surtout aux classes aisées et coûtent près de 16 milliards de dollars à l'État. C'est près du tiers de son budget. Depuis l'année dernière, les subventions à l'électricité et au carburant ont été suspendues ainsi que celles aux produits alimentaires. Autre point crucial, augmenter les rentrées fiscales. Là encore, l'Égypte a fait des efforts. Les taxes sur les cigarettes et l'alcool ont plus que doublé. Les hauts revenus payent désormais 5% de contributions supplémentaires. L'impôt foncier aussi a augmenté. Reste en suspens l'instauration d'une TVA, taxe sur la valeur ajoutée généralisée. Bon, il faut savoir que la majorité de ces réformes avaient été réclamées par les partenaires du Golfe, mais le FMI n'est pas le genre à faire la fine bouche.
C'est ce qu'on va entre autres retenir. Amir avait une dernière question. Gaël, comment l'Égypte compte valoriser ce prêt ?
Bien, comme on le disait tout à l'heure, la grande priorité de l'Égypte, c'est de se stabiliser. Le déficit budgétaire est abyssal. Il représente 11 à 13% du produit intérieur brut du pays. Il faut aussi reconstituer les réserves de devises étrangères. La dégringolade du tourisme et le ralentissement des revenus tirés du canal de Suez ont engendré une baisse des rentrées de dollars, notamment. En conséquence, la banque centrale égyptienne a dû dévaluer de près de 15% sa monnaie pour amortir ces chocs. Et au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les Égyptiens qui souffrent, car les prix des biens de consommation augmentent. Un prêt du FMI pourrait aussi débloquer d'autres aides, comme celle de l'Union européenne, de la Banque africaine de développement ou de la Banque mondiale. Et avec ses entrées d'argent, le pays pourra financer ses méga-projets. C'est une vieille recette. Sans le tourisme, le pays va devoir compter sur l'investissement public pour relancer son économie. Et le président al-Sissi a quelques projets dans les cartons, notamment la construction de la nouvelle capitale administrative du pays à l'est du Caire ou encore de la zone industrielle le long du canal de Suez, des projets qui nécessiteraient 45 milliards de dollars d'investissement.
45 milliards de dollars. Gaël Lalex du service économie de RFI qui répondait à Amir qui nous écoute à Libreville. Par la magie des ondes, nous allons faire un grand voyage jusqu'au Japon. Eric est à Yokohama. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Alors, vous souhaitez justement nous parler et nous poser des questions sur la situation au Japon.
Voilà, Nicolas, en fait, la semaine dernière, nous avons pu assister ici au Japon, avec beaucoup de surprises, à l'élection de Mme Yuriko Koike comme gouverneure de la grande métropole qu'est Tokyo, devenant par le coup la première femme à occuper pareille fonction. Alors, à ce sujet, j'ai deux questions. La première est de savoir quels sont les défis, les nouveaux défis qui attendent Mme Yuriko Koike en tant que gouverneure de Tokyo. Et aussi, peut-on espérer que cette élection facilite l'accès à de hauts postes de responsabilité politique à plus de femmes japonaises à l'avenir? Merci.
Yuriko Koike, qui prend donc la tête de la métropole, de la mégapole de Tokyo avec plus de 13 millions d'habitants, elle a affronté une vingtaine d'autres candidats. Elle est arrivée première avec 44% des voix. Valérie Niquet, vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes vous aussi au Japon. Alors, on parlait des Jeux Olympiques brésiliens il y a quelques minutes et de leurs difficultés. Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est aussi l'un des défis, peut-être même le défi qui attend Madame le gouverneur.
Alors effectivement, c'est un des défis importants, notamment pour tenter de maîtriser l'organisme. Mais c'est une question qui se pose pour toutes les capitales, on le voit depuis quelques temps, qui organisent les Jeux Olympiques. C'est la maîtrise des coûts dans une situation qui reste contrainte en termes budgétaires. Et puis, il faut se rappeler aussi qu'il y a quelques mois, il y a scandale à entacher l'organisation des Jeux Olympiques au Japon, puisque le sigle qui avait été choisi a été accusé de plagiat. Et donc, ils ont dû, dans l'urgence, trouver un autre symbole. Donc il y a tous les défis qui tournent autour. Effectivement, pas tellement l'organisation, parce que le Japon, en termes d'organisation, sait faire, mais en termes de coûts, ce sera important. Mais d'autres éléments sont également à prendre en compte. Il y a toute la question de la corruption. Il faut se souvenir que si Mme Koike a été élue, c'est parce qu'il y a eu des élections anticipées provoquées par la démission du précédent gouverneur, celui qui justement avait obtenu les Jeux Olympiques, accusé de corruption. Et lors de sa campagne électorale, depuis, elle a mis un peu d'eau dans ses critiques, mais Mme Koike appelait à la démission collective de l'Assemblée gouvernementale de Tokyo en l'accusant collectivement d'être totalement corrompue. Donc ça, c'est aussi un enjeu extrêmement important. Comment est-ce qu'elle va gérer ses relations avec l'Assemblée gouvernementale et comment est-ce qu'elle va gérer cette question de la corruption des élites politiques, notamment à Tokyo. Et enfin, un point très important pour les Tokyoïtes, et ce qui explique sans doute pourquoi elle a été élue, outre le fait qu'elle apparaissait comme une sorte d'outsider par rapport au parti traditionnel, c'est toute la question de la mise en place de structures plus importantes pour justement aider à la garde des jeunes enfants et permettre notamment au foyer où les deux parents travaillent et notamment aux mères de pouvoir conserver une occupation, un travail, ce qui est l'objectif officiel du Premier ministre Abe qui voudrait voir plus de femmes travailler à des postes plus importants. Mais pour le moment, la question de la garde des jeunes enfants n'est pas résolue. Il y a un manque de place très très important et notamment à Tokyo. Et il y a régulièrement des articles ou sur Internet ou dans les journaux qui dénoncent cet état de fait. Et une des promesses de Yuriko Koike, c'est justement de tenter de remédier à ces lacunes.
Alors il nous reste une quarantaine de secondes, Valérie Niquet. Le fait que les femmes ne soient pas très présentes dans la vie politique japonaise, Madame le gouverneur, elle n'est pas du tout novice, elle a été plusieurs fois ministre, mais c'est une volonté que l'on sent au sein des autorités de faire plus de place aux femmes dans la vie politique.
Alors c'est un objectif affirmé de la part, encore une fois, du Premier ministre Abe et de son entourage depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Ça ne veut pas dire que ça va se traduire immédiatement par une arrivée massive de femmes, même s'il a fortement encouragé des femmes à se présenter, notamment aux élections sénatoriales ou à la Diète comme il y a quelques semaines. Il faut noter que donc Yuriko Koike, elle a été ministre de la Défense, hein, ce qui est un ministre important, un ministère important.
Très vite,
et
hein,
puis que d'ailleurs, le nouveau ministre de la Défense est également une femme particulièrement conservatrice, mais c'est une femme qui a été également nommée comme nouvelle ministre de la Défense par le gouvernement Abe.
Merci beaucoup Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. A tout de suite pour le journal.